Yeah, fresh from Finland.
Donc c'est Pastor Love ce soir. Il dit, je suis tout frais de la Finlande, Matthieu 27.
And Father, we just thank you.
Père, ce soir, nous sommes encore dans la fraîcheur du message de ce matin. Nous avons été construits par l'amour, de ton amour envers nous, et cette merveilleuse nature de cet amour, un amour éternel et envers nous tous. Nous expérimentons cet amour quand nous sommes avec ton peuple. Et Père, merci et bénis cette portion ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Et donc Matthieu 27. Et dans ce chapitre, nous avons le rapport de la crucifixion. Et au verset 50 et 51, et voici, le voile du temple se déchira. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et au verset 51, et voici le temple du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte. Et la chose la plus surprenante pour moi est que le voile, et peut-être nous ne connaissons pas grand-chose à propos du voile, mais ce que nous savons, c'est qu'il était dans le temple. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est séparé, il séparait dans la cour le lieu saint du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là où le sacrificateur avait le droit de rentrer une fois par an. C'était le jour du sacrifice où il rentrait dans la présence de Dieu et faisait le pardon des péchés. Et Pasteur nous a rappelé si souvent quelque chose de particulier à propos du sacrificateur, c'est que quand il rentrait dans le Saint des Saints, ils attachaient une corde à ses pieds. Parce que s'il rentrait et s'il avait un péché dans sa vie et que ce péché n'était pas pardonné, quand il rentrait dans la présence de Dieu, et après qu'il rentre dans la présence de Dieu et qu'il ne sortait pas, personne ne se demandait qui va le chercher. Toi, tu vas le chercher. Non, personne n'allait rentrer. Parce qu'encore, c'est écrit dans le livre d'Exode, Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attachaient une corde autour du sacrificateur, parce que s'il ne revenait pas, il serait mort. C'est qu'il était mort. Et donc, ils l'auraient tiré, et ils auraient pris son corps mort de derrière le voile. Et ce voile était vraiment, avait une grande signification, parce qu'il traçait une ligne entre la sainteté de Dieu et le péché de l'homme. Et le voile disait, tu peux aller jusque-là, mais tu ne peux pas aller plus loin. C'est là jusqu'où tu peux aller seulement, dans la présence de Dieu. Et c'est vraiment incroyable. Ce voile, quand vous lisez dans le livre d'Exode, parle, je crois que c'est dans le chapitre 26, il est parlé dans le grand détail. Imaginez, 56 feet haut, 36 feet de large, je ne sais pas combien ça fait. Et c'est comme le mur de Berlin. Impossible de passer de l'autre côté. C'était là pour vous garder loin de la présence de Dieu parce que dans l'Ancien Testament, vous ne pouviez pas rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui est tellement incroyable. C'est que comme Jésus est mort sur la croix et quand vous lisez dans le livre des Hébreux au chapitre 10, Dieu donne cette illustration incroyable au verset verset 20. Donc, ayant nous pouvons entrer dans le Saint des Saints par Jésus. Nous pouvons rentrer à travers le voile, ce qui veut dire sa chair, au verset 20, et ce voile parlait, représentait la chair de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la croix du calvaire? La chair de Jésus a été blessée par les épines, par les clous, par la croix elle-même. Et c'était tellement incroyable de penser qu'à ce moment exactement, le corps de Jésus était brisé. Et c'était par les mains terribles, méchantes de l'homme. Et c'était sous la souveraineté de Dieu. Parce que quand Jésus était sur la croix, sa chair a été brisée. Et que s'est-il passé? Dans le temple, le voile a été brisé, déchiré, au moment exact où Jésus était mort sur la croix. Et c'est comme Dieu attendait ce moment dans toute l'histoire. C'est comme les mains de Dieu étaient sur ce voile. Et au moment où Jésus a donné son esprit, il a fini l'œuvre sur la croix. Le Dieu Tout-Puissant a pris ce voile et l'a déchiré de ses propres mains. C'est comme s'il imaginait si le sacrificateur était à ce moment-là dans le temple et que maintenant ce grand voile se déchire et maintenant l'homme doit se dire « Je vais mourir ». Mais il n'est pas mort, au contraire, il a vécu pour parler de cela. Et Dieu disait, il y a un nouveau chemin et vous pouvez maintenant rentrer dans la présence de Dieu. Vous n'avez plus besoin d'amener un sacrifice. Vous n'avez plus besoin d'être un sacrificateur. Vous n'avez plus besoin. Vous pouvez rentrer avec un nouvel accès dans la présence de Dieu. C'est comme Dieu a dit cela à chacun de vous. Je vous invite dans ma présence. Et c'est ce que le voile représente pour nous. Après cela, que ce voile soit divisé en deux, vous savez ce que les Juifs ont essayé de faire? Ils ont essayé de le recoudre, de le remettre. Après, dans les 40 ans suivants, ils ont essayé de remettre cette barrière entre Dieu et l'homme. Et de quoi cela parle-t-il? Des Galates, de la manière d'agir des Galates. Et alors que Dieu disait, il n'y a plus besoin de sacrifice. Vous pouvez rentrer à cause du sang de mon fils. Et parfois, quand on échoue, c'est ce qu'on fait. On recommence à recoudre ce voile. On dit, je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu, j'ai trop honte. Je ne peux plus rentrer, j'ai échoué. Avant même que je vienne au culte ce soir, j'ai échoué, j'ai fait des erreurs. Alors que j'ai entendu ce matin, à propos de l'amour, j'ai encore agi sans amour. Comment puis-je rentrer dans la présence de Dieu? Je vous le dis, à cause que le voile a été déchiré en deux. Et avec assurance, nous pouvons rentrer dans la présence. Et la nuit dernière, j'étais avec les jeunes et je leur ai dit, comme une fois alors qu'on échoue, cela me rappelle mon chien. Et vous savez, et si quelqu'un n'a pas fermé la porte, vous êtes sûr qu'il va trouver son chemin vers les poubelles et qu'il va en mettre de partout. Et je ne peux pas croire qu'à chaque fois je lui parle comme s'il était un être humain. Première chose que je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est comme un jour il va me répondre, qu'est-ce que tu veux dire de ce que j'ai fait? Je suis un chien, hein? Je suis un chien. Et tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas me faire cela. Comment? Tu laisses la porte ouverte et tu penses que je ne vais pas aller vers ces poubelles où il y a plein de nourriture qui reste là comme des déchets et puis je ne veux pas les manger. Je sais que ce n'est pas mon endroit. Je sais que ce n'est pas... Ils ont déjà préparé de la nourriture pour moi, mais j'ai besoin de ça. Je n'ai pas le choix. C'est ce que je suis, c'est ce que je fais, et je suis un chien. Est-ce que tu me comprends? Mais vous savez quoi? Ce qu'il ne comprend pas, c'est que j'ai déjà enlevé tout ce qu'il a fait, j'ai déjà nettoyé, mais à chaque fois qu'il le fait, il se met dans un coin et vous le trouvez la tête en bas, les oreilles en bas. C'est comme il n'ose pas me regarder, même quand je lui parle. C'est quand même incroyable. Il se sent coupable. Est-ce que nous ne faisons pas les mêmes choses? On court loin de Dieu à cause de notre conscience coupable. Et Dieu dit, n'écoute pas ta conscience coupable. Regarde à la croix. Et quand tu regardes à la croix, tu as une invitation dans ma présence. C'est vrai. Dieu a écrit cela dans 1 Jean chapitre 3. Mais bien-aimés, quand notre conscience, c'est écrit le cœur, mais la meilleure traduction c'est conscience, quand elle nous accuse, et c'est si souvent, Dieu est plus grand que notre conscience. C'est incroyable. Parce que tout ce que peut faire notre conscience, c'est de nous accuser. Vous savez ce que ma conscience m'a dit? Montrez-moi dans la Bible où la conscience n'est pas notre autorité finale. Votre conscience est comme sur ce programme télévisé. Vous vous rappelez ces deux hommes qui venaient à la porte, qui étaient complètement sans émotion, et la femme pleurait et ils regardaient cette femme juste. Ils regardaient la femme sans émotion, juste en disant, c'est un fact, c'est un fait, c'est tout. Et rien ne pouvait les culpabiliser. Mais si votre conscience vous culpabilise, alors appelez à un jugement plus haut que cela. C'est la justice de Dieu qui est remplie du pardon et qui a déchiré le voile en deux pour qu'on rentre dans sa présence. Personne ne peut se cacher. Il sait ce que nous sommes. Ce soir, quand j'ai regardé mon chien, je me suis dit, mais c'est juste un chien. Il n'y a rien qu'il peut faire, il ne peut pas changer ça. Mais moi, quand je fais face à mes tentations, je suis un homme. Je ne devrais pas me cacher, je devrais rentrer dans sa présence. Je ne dois pas faire que ce problème me fasse aller loin de lui, mais au contraire, dans sa présence. Ne retournons pas en arrière. Ayons de l'assurance. Ayons de l'assurance pour rentrer dans le sanctuaire par la route nouvelle qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile. Nous n'avons plus besoin de rester plus longtemps. Essayons de recoudre ce voile, comme les Galates, comme les Judéens, les Judéaïsans. Mais je l'ai fait une fois pour toutes, pour qu'ils sachent qu'il y a une invitation pour eux de rentrer dans ma présence. Avec tout ce qui est dans ma vieille nature, qui me dit, va-t'en, fuis, essaye de recoudre, trouve quelque chose qui soit plus acceptable pour Dieu. Non, résistez à toutes ces choses et dites, je vais venir avec assurance au trône de la grâce, trouver la miséricorde. Et quand vous en avez le plus besoin, c'est là où vous devez rentrer avec plus d'assurance encore. Il y a une raison pourquoi Dieu a déchiré ce voile. Pourquoi a-t-il attendu jusqu'à ce que le corps de Jésus soit déchiré sur la croix? Je peux imaginer Dieu, il a ses mains sur ce voile. Et il est prêt à le déchirer. Et il le fait. Et dit, n'essayez pas de le recoudre à travers vos bonnes œuvres, vos œuvres humaines, vos droits. Et venez simplement, venez juste comme vous êtes, venez avec vos faiblesses, venez avec vos fragilités, venez quand vous échouez, quand vous tombez, quand vous faites une erreur. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons découvert, juste comme mon chien a découvert, que là, tout a été déjà nettoyé. Dieu a tout fait. Il a déjà nettoyé, payé. Il a enlevé vos péchés. Il n'y a plus de condamnation. Passez par ce voile qui a été déchiré pour vous faire rentrer dans la présence de Dieu et adorez-le, aimez-le, servez-le, parce que rien ne peut nous garder d'aller loin de son invitation. Père, nous te bénissons ce soir dans le nom de Jésus et bénis ces pensées dans notre cœur. Amen. Ce soir, nous allons accueillir Pasteur Matti. Il repart demain pour Istanbul. Et levez-vous, s'il vous plaît, et prions pour lui, pour le travail qui se passe en Turquie, car c'est vraiment un travail clé. Ce soir, Seigneur, nous te prions pour cet homme qui se tient sur la brèche. Et nous prions pour le travail en Turquie, les croyants là-bas, ce pays, Seigneur, et ce ministère que tu leur as donné, que tu bénisses, Pasteur Matti, alors qu'il nous bénit par sa portion ce soir. Sois avec lui, Seigneur, tous les jours, de toute manière, au nom de Jésus. Amen.
Thank you. Amen.
Merci. Et amen.
This one and a half months have been really an interesting time for me personally.
Ce mois que j'ai passé ici a été vraiment un temps intéressant pour moi. Oh, Dieu a repris trois de mes amis auprès de lui, et je pensais à ces hommes. Et à chaque fois que j'entends que quelque chose s'est passé, c'était à chaque fois inattendu, et à chaque fois que j'ai entendu ces nouvelles, en même temps, je me suis réjoui aussi. Victoire. Victoire, c'est une victoire. Deux d'entre eux, n'ont pas eu de funérailles. C'était une victoire de toute façon. Ils sont avec Christ aujourd'hui. Et le premier était d'Ouzbékistan, de Samarcande. Et quand sa femme s'est convertie, il était le premier à être converti. Ses voisins étaient vraiment fâchés envers elle. Ils ont essayé de l'effrayer. Tu n'auras pas de funérailles pour ton mari ici, puisque tu es chrétien. Personne ne sera là pour l'enterrer. Et c'était vraiment une attaque sérieuse envers elle. Elle était très... Elle se demandait, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois répondre? Et, c'est elle, en fait, qui... Elle a dit, puisque je suis chrétienne, je ne pourrais pas être enterrée. Et donc, j'ai prié et je lui ai dit, tu sais, il ne s'inquiète pas de ton âme. Et quand tu meurs, ils ne pourront pas prendre soin de ton âme. Ils n'ont rien à t'offrir. Mais toi, tu as une victoire. Et c'est ce que nous avons en Christ. Et au moment où Christ est mort sur la croix et a proclamé cette victoire, de ce moment-là jusqu'à notre mort, nous vivons de victoire en victoire. Et il n'y a aucune raison pour nous d'être sans victoire. Vous savez, j'imagine qu'un de ces hommes qui sont morts, je regarde de cette manière que une porte a été envoyée au visage de Satan. Et Dieu lui a dit, tu vois, c'est la fin d'un temps où tu pourras Tu ne pourras plus les accuser, les rendre confus. Tu ne peux plus rentrer là. Et Satan n'est pas le seul qui s'arrête à ce moment-là. C'est aussi la fin d'une autre relation. Et c'est avec notre vieil homme. La vieille nature est à la porte et essaye de dire, « Je suis là. Il faudrait que je parte avec toi. » Et tu ne peux pas. La vieille nature ne peut pas. Elle n'existe même plus. Romains 6, 6, ces choses ont déjà été traitées. Comme une jeune personne un jour a demandé, si le vieil homme est mort, pourquoi est-il si bruyant? Et c'est une bonne question. Et il fait beaucoup de bruit dans notre expérience. Et à ce moment-là, c'est la fin de ce bruit. De victoire en victoire. Notre vie va de victoire en victoire. Il n'y a pas de raison pour nous, vraiment, de ne pas être victorieux dans nos situations, peu importe ce qu'elles sont. Et la victoire, le mot victoire, ce n'est pas un mot commun dans notre vocabulaire. On ne parle pas de victoire à moins qu'on fasse du sport. Ce n'est pas un mot commun de parler de la victoire. Mais c'est un mot très important pour nous. Parce que c'est une proclamation dans notre vie. Notre vie victorieuse. C'est la victoire de Christ. Pour moi, de vivre, c'est Christ. Et pour mourir, et de mourir, c'est un gain. Dans Philippiens, est-ce que c'est notre confession? C'est incroyable quand nous pouvons le dire. Si nous sommes propres justes et nous nous sommes gardés moralement justes et nous disons, je ne suis pas tombé depuis longtemps, ça c'est pas une victoire. Cela n'est pas une victoire. Il y a beaucoup de fatalisme dans le christianisme aujourd'hui aussi. Il n'y a pas d'intérêt dans la victoire. Mais le croyant rempli du Saint-Esprit vit de victoire en victoire. Et tous les détails de notre vie sont des moments de victoire. Quelqu'un a dit, « Oh Dieu n'est pas intéressé dans la couleur de nos chaussettes. » Mais moi, je dis que Dieu est vraiment intéressé dans ces choses. Dieu est intéressé où est-ce que nous vivons, où nous travaillons, à qui nous parlons, qu'est-ce que nous regardons, ce que nous planifions, de quoi nous parlons, de la manière dont prenons soin de nous, la manière dont nous... avez-vous déjà vu comment les gens font correspondre la couleur de leurs vêtements? D'être à l'heure. Nous voulons ressembler à Dieu. C'est pourquoi nous faisons ces choses. Si je ne veux pas être comme Dieu, je ne brosserai pas mes dents. Mais parce que je veux être comme Dieu, je prends soin de moi. Je me douche presque tous les jours. Parce que c'est en moi. Et j'ai goûté cette victoire. Avez-vous goûté cette victoire? Et cette victoire est dans le détail de nos vies. Ce n'est pas quelque part de lointain de nous. C'est tout près de nous. Dans ces moments, parfois, quand on ne se sent pas vraiment victorieux, et il y a beaucoup de moments comme ça, peu importe, nous sommes encore victorieux. Parce que la victoire a déjà été gagnée un jour. Et un jour, nous vivrons le témoignage de cette victoire. Et j'aimerais vous donner quelques petits commentaires sur cette victoire. Et ça peut être très encouragement pour chacun de nous, parce que ça peut tellement être facile de vivre notre vie avec nos faiblesses, nos infirmités. Mais Dieu a un plan pour nous de vivre victorieusement. Et c'est une victoire quand, où le péché ne peut pas m'empêcher de venir à l'église. Est-ce que ce n'est pas une victoire? Quand rien n'a été fait qui peut m'empêcher de venir, quand j'ai décidé que je vais y aller, je n'ai pas honte de l'Évangile, j'ai honte de mes péchés, mais je n'ai pas honte de l'Évangile et je vais continuer encore. Ça, c'est la seule raison, seule chose que je puisse faire dans ma vie, je vais le faire. C'est une victoire. C'est une victoire quand je confesse mes péchés et je crois à un pardon complet et je vis dans cela. Et je dis, toi, vieil homme, tu es très bruyant, mais tu ne seras pas reconnu dans le ciel, ta voix ne sera pas entendue là-haut, donc je ne vais pas faire attention à ta voix. Je ne vais pas. C'est une victoire quand j'obéis à la vérité, quand j'aime la vérité encore, que je tombe amoureux de la vérité. C'est une grande victoire. Et c'est une victoire quand je pardonne à quelqu'un qui même ne l'apprécie pas. C'est une grande victoire. Parce que je vis de victoire en victoire. Par vous? Pas vous? Oui, c'est vrai, nous le faisons. Et j'ai pensé à la vie d'Ismaël. Beaucoup de gens ont dit il était un croyant. Il n'était pas vraiment le prototype d'un croyant. Il n'était pas un bon croyant. Il avait beaucoup de problèmes, comme s'il n'avait jamais été débarrassé de ses problèmes. Mais maintenant, je peux parler de lui parce qu'il est auprès du Seigneur et il s'en fiche. Mais il avait vraiment des problèmes avec l'alcool. Et vous savez, quand j'ai entendu parler de sa mort, j'étais sûr qu'il était mort à cause de son ivresse. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est que sa femme est devenue très malade, a été emmenée à l'hôpital, et elle est passée par une opération, et il est allé la visiter, il est allé visiter sa femme. Et quand il est arrivé vers sa femme, à son lit, il est mort là. Il est mort, même là, comme ça. Et j'étais tellement heureux qu'il est mort de ce moyen-là, à cet endroit-là, et non pas ivre quelque part sur une route, puisqu'il était toujours ivre. Mais il est mort là, comme ça. Et c'était une victoire glorieuse. Il y a tellement de choses qui peuvent aller de travers, mais il y a une victoire qui a déjà été gagnée. Et dans cette victoire que nous vivons aujourd'hui, nous visons une autre victoire. Et elle sera vraiment personnelle pour nous. C'est une victoire quand nous disons non à une tentation. Non pas parce que nous sommes effrayés d'être attrapés ou pas à cause des lois, mais parce que nous ne voulons pas que notre relation avec Dieu soit interrompue. Et nous disons, ne me distrais pas, j'ai une marche avec Dieu, j'ai une relation avec Dieu, j'aime Dieu. Ça, c'est la victoire. Et c'est basé sur ce que Christ a fait. C'est une victoire d'ignorer l'homme naturel et toutes ces demandes qu'il fait sur nous. Nous sommes des gagnants. Vous savez, quand je suis venu dans le ministère, je n'aimais pas qu'on parle de gagner des âmes. Je me sentais un petit peu offensé par ce terme. Je me disais, je préférais mieux partager sa foi. Je trouvais que c'était un mot trop agressif de gagner des âmes. Le mot gagner des âmes. Mais c'est incroyable comment nous gagnons les gens. Nous sommes appelés à gagner les gens. Je suis allé dans 1 Corinthiens 9 où il a été appelé à gagner des âmes. Et c'est tellement une victoire Parce que c'est ça le contenu de nos vies. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 9, au verset
19,
j'ai mis devant moi de les gagner tous, que je puisse être juif avec les juifs, ceux qui sont sous la loi, que je puisse gagner ceux qui sont sous la loi. Pour ceux qui sont sans la loi, mais que je puisse aussi gagner ceux qui sont sans la loi. Pour les faibles, je suis devenu faible, afin que je puisse gagner les faibles. Je suis devenu tout, pour chacun, pour que je puisse en gagner quelques-uns. Wow. Gloire à Dieu. Oui, est-ce que ce n'était pas incroyable, la victoire? Et je pense à Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs. Comment? Par celui qui nous aime. Quelle victoire incroyable nous avons. Et de vivre dans ces choses. Et on a l'habitude de chanter un chant au Libéria. Je ne connais pas de défaite. Jésus est mon capitaine et je ne connais pas de défaite. Et de vivre dans la victoire de l'œuvre accomplie et pour voir ce que Dieu a fait en nous, comme nous avons entendu ce soir, cet homme qui est allé au ciel, quelle victoire! Est-ce que ce n'est pas un autre style de pensée que nous avons, autre que le monde, quand il parle, que le bruit du vieil homme se tait. Dans Romains 3, 19, que la bouche du monde soit arrêtée. Zacharie 2, 13, sois silencieux, tais-toi, cher. Zacharie 3, 1, Jésus a dit à Satan, le diable te rejette, Satan. C'est la victoire. Les bruits du monde, la chair et le diable ont arrêté de faire du bruit à cause de la croix. Le monde a été crucifié et nous sommes devenus vainqueurs à cause du sang et du témoignage. Quelle victoire nous avons! De vivre avec cela comme une armure de foi. Vous savez ce que c'est ce bouclier? Toutes les projections viennent de l'extérieur et à l'intérieur, nous en avons des projections. Mais Paul disait, je ne suis pas mes faiblesses, je ne suis pas ton évaluation de moi. J'ai une victoire en Jésus-Christ et cette victoire produit une communion incroyable. Cette victoire, alors que nous avons lu dans Romains 12, verset 18, il ne criera point dans les rues jusqu'à ce qu'il ait amené le jugement jusqu'à la victoire. Et dans son nom, les nations croiront. Et quand nous amenons ce message jusqu'à Istanbul, dans le Middle West, autour de Baltimore et autour du monde, nous avons une victoire. C'est la victoire de l'œuvre accomplie. Ce n'est pas une victoire qu'on atteint par nos propres forces. C'est la victoire de l'œuvre accomplie. Est-ce que c'est dans Exode 17 où Dieu dit, tu vas faire la guerre à Amalek? Dieu emploie le mot d'Amalek qui parle de la chair. Mais Dieu dit à son peuple, tu feras la guerre toute ta vie avec Amalek, et dit, mais il était appelé le Dieu, le Seigneur, ma victoire, la bannière de ma victoire. Et alors que Pasteur Matty parlait comme nous avons besoin en tant que croyants d'être vraiment, de comprendre la victoire. Et à chaque fois que ces pensées de défaite viennent, je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. C'est vrai, on ne peut pas le faire. Mais dans 2 Samuel 23, c'est l'histoire de Benaïa, qui était un des hommes vaillants de David. Et son nom veut dire fils de ma main droite. Et cela représente Christ. Il tue un lion par un jour. Il a tué un lion dans un puits. Puis un Égyptien lui a fait face avec une lance. Il a pris la lance de l'Égyptien et l'a tué lui-même. Et l'Égyptien parle du monde. Et puis, il a tué 2 lions qui parlent des hommes de Moab qui parlent de la chair. Donc Dieu dit à David, fais de lui la personne qui va être à l'intérieur aussi, qui va garder tes gardes, qui va être là près de toi et qui va aussi s'occuper de l'armée en extérieur, parce qu'il représente vraiment la victoire absolue. Nous avons cette victoire dans l'œuvre accomplie à travers le Saint-Esprit, ces initiations, chaque jour dans notre vie. Et nous n'avons pas à vivre dans des projections de tous les bruits du diable, du monde et de la chair, mais de leur dire, taisez-vous, je ne suis pas en train d'écouter, je ne vous écouterai pas, j'écoute juste Dieu, alors qu'il est inspiré par l'Esprit de Dieu, et je veux vivre avec une vie victorieuse. Des fois, bien sûr que je ne pourrais pas. C'est pourquoi Dieu est venu me rendre libre pour que je me réjouisse de la victoire.